De la justification de l'inégalité dans les sociétés ternaires. Plus généralement, on aurait bien tort de voir dans les sociétés ternaires l'incarnation d'un ordre intrinsèquement injuste, despotique et arbitraire, en opposition radicale avec l'ordre méritocratique moderne, réputé juste et harmonieux. Le besoin de sécurité et celui de sens ont toujours été deux besoins sociaux essentiels. Cela vaut notamment, mais pas seulement, dans des sociétés peu développées, caractérisé par le morcellement territorial et la faiblesse des communications, et marqué par l'instabilité chronique et la précarité de l'existence, dont les fondements mêmes peuvent être menacés en permanence par des pillards, des raids meurtriers ou des épidémies. Dès lors que des groupes religieux et militaires sont en mesure d'apporter des réponses crédibles à ces besoins de sens et de stabilité, dans le cadre d'institutions et d'idéologies adaptées aux territoires et aux époques en question, les premiers en proposant un grand récit des origines et du devenir de la communauté, et des signes concrets permettant d'exprimer son appartenance et d'assurer sa perpétuation, les seconds en offrant une organisation permettant de réguler le champ de la violence légitime, et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Il n'est guère étonnant que l'ordre trifonctionnel puisse apparaître comme légitime aux yeux des populations concernées. Pourquoi faudrait-il risquer de tout perdre en s'en prenant à un pouvoir apportant la sécurité matérielle et spirituelle, sans savoir qui lui succédera? Les mystères de la politique et de l'organisation sociale idéale sont tellement épais, les incertitudes sur les moyens pratiques d'y parvenir sont si extrêmes qu'il est naturel qu'un pouvoir proposant un modèle éprouvé de stabilité, fondé sur une répartition simple et intelligible des grandes fonctions sociales, rencontre un certain succès. Cela n'implique évidemment pas l'existence d'un consensus sur la répartition exacte du pouvoir et des ressources entre les trois groupes. Le schéma trifonctionnel n'est pas un discours idéaliste et raisonné proposant une norme de justice précisément définie et ouverte à la délibération. Il est un discours autoritaire, hiérarchique et violemment inégalitaire, permettant à des élites religieuses et militaires d'asseoir leur domination, souvent de façon éhontée, brutale et excessive. Il arrive d'ailleurs fréquemment dans les sociétés ternaires que le clergé et la noblesse tentent de pousser trop loin leur avantage, ou surestiment leur pouvoir de coercition, ce qui peut conduire à des révoltes, à leur transformation ou leur disparition. J'insiste simplement sur le fait que le système trifonctionnel de justification de l'inégalité qui se trouve au cœur des sociétés ternaires, à savoir l'idée que chacun des trois groupes occupe une fonction spécifique, une fonction religieuse, une fonction militaire, une fonction laborieuse, et que cette répartition bénéficie potentiellement à l'ensemble de la communauté, doit toujours avoir un minimum de plausibilité pour que le système puisse perdurer. Dans les sociétés ternaires, comme toutes les sociétés, un régime inégalitaire ne peut être durable que s'il repose sur un mélange complexe de contraintes et de consentement. La contrainte pure et dure ne suffit pas. Le modèle d'organisation sociale défendu par les groupes dominants doit également susciter un minimum d'adhésion dans la population, ou tout du moins au sein d'une partie significative de celle-ci. Le leadership politique doit toujours s'appuyer sur une forme minimale de leadership moral et intellectuel, c'est-à-dire sur une théorie crédible du bien public et de l'intérêt général. Tel est sans doute le point commun le plus important entre les sociétés trifonctionnelles et les sociétés ultérieures. La particularité des sociétés ternaires est simplement leur mode spécifique de justification de l'inégalité. Chaque groupe social remplit une fonction indispensable aux autres groupes, rend à chacun des services vitaux, de la même façon que les différentes parties d'un même corps humain. La métaphore corporelle est d'ailleurs fréquemment utilisée dans les différents textes théorisant l'organisation trifonctionnelle de ces sociétés. En Inde, depuis l'Antiquité, en particulier dans le cadre du Manusmriti, traité juridico-politique rédigé au IIe siècle avant l'ère commune, AEC, en Inde du Nord, plus d'un millénaire avant les premiers textes chrétiens formalisant le schéma ternaire et sur lequel nous reviendrons, comme en Europe médiévale. Cela permet de donner au groupe dominé une place dans un tout cohérent, le plus souvent avec le rôle des pieds ou des jambes, alors que les groupes dominants s'incarnent généralement dans la tête et les bras. Ce qui n'est certes pas très gratifiant, mais correspond au moins à une fonction utile incontestable au service de l'ensemble de la communauté. Ce mode de justification mérite donc d'être étudié en tant que tel, en particulier les conditions de sa transformation et de sa disparition, et d'être comparé aux régimes modernes de justification de l'inégalité qui ne sont pas toujours totalement dissemblables, même si les fonctions ont évidemment beaucoup évolué et que l'égalité d'accès aux différentes occupations est désormais proclamée comme principe cardinal, sans que l'on se soucie toujours beaucoup de savoir si l'égalité d'accès est réelle ou théorique. Les régimes politiques qui ont succédé aux sociétés ternaires se sont chargés de les dénigrer, et c'est bien naturel. On pense par exemple au discours de la bourgeoisie française du XIXe siècle face à la noblesse d'Ancien Régime, ou bien encore au discours du colonisateur britannique face aux brahmanes indiens. Mais ces discours visaient eux-mêmes à justifier d'autres systèmes d'inégalité et de domination qui n'étaient pas toujours plus tendres avec les groupes dominés, et il importe de les étudier en tant que tels. Multiplicité des élites, unité du peuple. Enfin et surtout, il nous faut débuter notre enquête par l'étude des sociétés ternaires et l'analyse de quelques-unes de leurs multiples variantes et transformations, car quelle que soit l'ampleur de ce qui les oppose aux sociétés modernes, le fait central est que les différentes trajectoires et transitions historiques qui ont conduit à la disparition des sociétés ternaires ont laissé une empreinte durable sur le monde actuel. Nous allons voir en particulier que les principales variations entre sociétés ternaires s'expliquent par la nature de l'idéologie politico-religieuse dominante, et notamment par sa position sur deux questions clés, celle de la multiplicité plus ou moins assumée des élites et celle de l'unité réelle ou supposée du peuple. Il s'agit tout d'abord de la question de la hiérarchie et de la complémentarité entre les deux groupes dominants, clergé et noblesse. Dans la plupart des sociétés d'ordre européenne, et en particulier sous l'Ancien Régime français, le premier ordre est officiellement le clergé, et la noblesse doit se contenter de la seconde place protocolaire dans les processions. Mais qui détient véritablement le pouvoir suprême au sein des sociétés ternaires, et comment organiser la cohabitation entre le pouvoir spirituel des clercs et le pouvoir temporel des nobles? La question est tout sauf anodine, et elle a reçu des réponses variables dans le temps et l'espace. Cette première question est elle-même étroitement liée à celle du célibat des prêtres et de leur reproduction comme groupe social véritablement distinct des deux autres. Ainsi, le groupe clérical peut-il se reproduire et former une véritable classe héréditaire dans l'hindouisme, sous la forme des brahmanes, véritable classe cléricale et intellectuelle, qui en pratique a souvent occupé une position politique et économique dominante face à la noblesse guerrière des kshatriyas, ce qu'il nous faudra comprendre. L'islam chiite et sunnite, avec là aussi un véritable clergé héréditaire dans le cas du chiisme, organisé et puissant, souvent à la tête de quasi-états locaux, quand ce n'est pas de l'état centralisé lui-même, le judaïsme et la plupart des religions, à l'exception notable du christianisme, tout du moins dans sa variante romaine et catholique moderne, où le clergé doit en permanence être alimenté par les deux autres groupes, en fait par la noblesse pour le haut clergé et par le tiers-état pour le bas clergé. Cela rend d'emblée le cas européen très spécifique au sein de l'histoire longue des sociétés ternaires et des régimes inégalitaires en général, ce qui peut d'ailleurs contribuer à expliquer certains aspects de la trajectoire européenne ultérieure, en particulier du point de vue de son idéologie économico-financière et de son organisation juridique. Nous verrons aussi dans la quatrième partie de cet ouvrage que cette concurrence entre différents types d'élites, cléricales ou guerrières, et de légitimité n'est pas sans rapport avec les oppositions entre élites intellectuelles et marchandes, qui caractérisent parfois le conflit politique et électoral moderne, même si les conditions de la compétition ont évidemment bien changé depuis l'âge trifonctionnel. Il s'agit en second lieu de la question de l'unification plus ou moins complète des statuts au sein de la classe des travailleurs, ou à l'inverse du maintien plus ou moins tardif de différentes formes de travail servile, servage, esclavage, et de l'importance donnée aux identités et corporations professionnelles en lien avec la formation de l'État centralisé moderne et l'idéologie religieuse traditionnelle. En théorie, la société ternaire repose sur l'idée de l'unification de l'ensemble des travailleurs en une seule classe, un seul statut, une seule dignité. En pratique, les choses peuvent être beaucoup plus complexes, comme l'illustrent par exemple dans le monde indien les inégalités persistantes entre les groupes issus des plus basses castes, les Dalits ou intouchables, anciennes main-d'œuvre intouchables et discriminées, et ceux issus des castes basses et moyennes, les ex-Shudras, anciennes main-d'œuvre prolétaires ou serviles suivant les cas, mais en tout état de cause moins discriminées que les Dalits, opposition qui joue toujours un rôle central dans la structuration du conflit sociopolitique dans l'Inde du début du XXIe siècle. Dans le monde européen, le processus d'unification des statuts du travail et d'extinction graduelle du servage s'est étalé sur quasiment un millénaire, débutant autour de l'an 1000 et se poursuivant jusqu'à la fin du XIXe siècle à l'est du continent, ce qui a laissé des traces et des discriminations visibles jusqu'au temps présent, comme l'illustre le cas des Roms. Surtout, la modernité propriétariste euro-américaine s'est accompagnée d'un développement sans précédent de systèmes esclavagistes et coloniaux qui ont conduit à des inégalités persistantes entre populations blanches et noires aux États-Unis et entre populations d'origine autochtone et postcoloniale en Europe, suivant des modalités différentes et néanmoins comparables. Pour résumer, les inégalités liées à différentes origines statutaires ou ethno-religieuses, ou perçues comme telles, continuent de jouer un rôle central dans l'inégalité moderne, qui ne se réduit pas au conte de fées méritocratiques parfois évoquées dans certains discours tant s'en faut. Or, pour bien comprendre cette dimension centrale des inégalités modernes, il importe de commencer par étudier les sociétés ternaires traditionnelles et leurs variantes, et la façon dont elles se sont progressivement transformées depuis le XVIIIe siècle en un mélange complexe de sociétés de propriétaires, où les différences statutaires et ethno-religieuses sont en principe gommées, mais où les inégalités monétaires et patrimoniales peuvent prendre des proportions insoupçonnées, et de sociétés esclavagistes, coloniales et postcoloniales, où les différences statutaires et ethno-religieuses jouent au contraire un rôle central, éventuellement en conjonction avec des inégalités monétaires et patrimoniales considérables. Plus généralement, l'étude des trajectoires post-ternaires et de leur diversité fournit l'une des clés essentielles pour l'analyse du rôle des institutions et idéologies religieuses dans la structuration des sociétés modernes, en particulier au travers de leur implication dans le système éducatif et plus globalement dans la régulation et la représentation des inégalités sociales. Les sociétés ternaires et la formation de l'État, Europe, Inde, Chine, Iran. Précisons enfin qu'il n'est pas question de proposer ici une histoire générale des sociétés ternaires, d'une part parce que cela exigerait de nombreux volumes et dépasserait de beaucoup le cadre de cet ouvrage, et d'autre part parce que les matériaux primaires nécessaires pour écrire une telle histoire ne sont pas disponibles à ce jour, et dans une certaine mesure ne le seront jamais complètement, du fait précisément du caractère extrêmement décentralisé des sociétés ternaires et des traces limitées qu'elles nous ont laissées. Plus modestement, l'objet de ce chapitre et des suivants est de poser quelques jalons pour une telle histoire comparative et globale, en se concentrant sur les éléments les plus importants pour l'analyse des développements ultérieurs et des régimes inégalitaires modernes. Dans la suite de cette première partie, je vais examiner plus en détail le cas de la France et celui des autres pays européens. Le cas français est emblématique, car la révolution de 1789 marque une rupture particulièrement nette entre l'ancien régime, qui peut être considéré comme un exemple paradigmatique de société ternaire, et la société bourgeoise qui s'épanouit en France au XIXe siècle, qui apparaît comme l'archétype de la société de propriétaires, forme historique majeure qui succède dans de nombreux pays aux sociétés ternaires. L'expression « tiers-état » vient de la langue française et exprime aussi clairement qu'il est possible l'idée d'une société divisée en trois classes. L'étude du cas français et la comparaison avec les autres trajectoires européennes et extra-européennes permettent en outre de s'interroger sur le rôle respectif des processus révolutionnaires et des tendances longues, liées notamment à la formation de l'État et aux évolutions de la structure socio-économique, dans la transformation des sociétés ternaires. Les cas britanniques et suédois offrent un contrepoint particulièrement utile. Ces deux pays sont encore aujourd'hui des monarchies, et le processus de transformation des sociétés ternaires s'y est déroulé de façon beaucoup plus graduelle qu'en France. Nous verrons cependant que les moments de rupture jouent également un rôle essentiel et que ces trajectoires illustrent elles aussi la multiplicité et la diversité des bifurcations possibles au sein de cette évolution générale. J'analyserai ensuite dans la seconde partie plusieurs variantes de sociétés ternaires et parfois quaternaires observées en dehors de l'Europe. Je m'intéresserai en particulier à la façon dont leur évolution a été affectée par les systèmes de domination esclavagiste puis colonialiste mis en place par les puissances européennes. Je me focaliserai notamment sur le cas de l'Inde, où les stigmates des divisions ternaires anciennes restent exceptionnellement forts, en dépit de la volonté des gouvernements indiens d'y mettre fin depuis l'indépendance du pays en 1947. L'Inde offre en outre un point d'observation unique lié à la rencontre violente entre une civilisation ternaire ancienne, la plus vieille du monde, et la puissance coloniale britannique, rencontre qui a totalement transformé les conditions de la formation de l'État et de la transformation sociale. La comparaison avec les trajectoires observées en Chine ou au Japon permettra, là aussi, d'ouvrir plusieurs hypothèses sur les différentes trajectoires post-ternaires. J'évoquerai enfin le cas de l'Iran, qui offre l'exemple frappant d'une constitutionnalisation tardive et toujours en vigueur du pouvoir clérical, avec la mise en place de la République islamique en 1979. Armé de ces différentes leçons, nous pourrons passer à la troisième partie de ce livre et à l'analyse de la chute des sociétés de propriétaires sous les coups des crises du XXe siècle et de leur possible régénération et redéfinition dans le monde néo-propriétariste et post-colonial de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle.